Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22. Alors, c'est notre sœur Élie qui va nous lire la parole de Dieu. On est dans l'Évangile selon Matthieu, le même passage que la semaine dernière, donc le chapitre 22, au verset 15. Si vous avez besoin d'avoir une copie des Saintes Écritures parce que vous n'avez pas une Bible avec vous, simplement levez la main. Les placeurs sont à l'arrière, ils vont vous apporter la parole de Dieu tournée dans Matthieu 22, s'il vous plaît, les frères, pour des gens qui seraient moins familiers. On va aller dans quelques passages. Alors, ça vous prend une Bible quand vous êtes régulier ici pour voir de vos yeux ce qu'on prétend, ce qu'on annonce à l'avant et s'assurer que nous prêchons la parole de Dieu et qu'elle entre dans nos cœurs. Matthieu 22, 15 à 22, on va écouter ensemble la parole de Dieu.
Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il lui demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, » lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent.
Merci. Avant d'aller dans un mot de prière, je voulais juste vous donner quelques nouvelles. Je n'ai pas croisé ce matin Marie-André, mais à ce que je sache, Stéphica et Socrate Pierre ne sont pas encore revenus. Est-ce que Marie est là? Ou est en haut avec les enfants? D'accord. On vous a demandé la semaine dernière de prier pour eux parce que la maman de Stéphica est toujours en Haïti. Elle a été blessée par l'effondrement de sa maison. Le bassin a été cassé. Et puis, pour les nouvelles qu'ils en avaient, ça demandait une intervention chirurgicale rapide, parce qu'il y avait danger d'aggravation, même voire de paralysie. Et Socrate et Stéphica sont allés là-bas pour essayer de voir s'ils pouvaient faciliter une intervention. Jusqu'à présent, ça n'avait rien donné. C'est vraiment là, complètement désorganisé. Alors, ils ont amené la maman auprès de Médecins sans frontières. Les médecins, les intervenants n'avaient plus d'appareil pour faire une radiographie parce qu'il avait été déplacé ailleurs. Ils ne savaient même pas où, donc il ne pouvait pas y avoir de suite sur ça. Alors, on vous demanderait de prier. J'ai demandé à Marie-André comment allait Stéphica, qui est une jeune fille de 15, 16 ans, et puis elle me disait elle n'arrête pas de pleurer, elle n'arrête pas de pleurer. Parce qu'évidemment, elle était auprès de sa mère l'été dernier en Haïti. Puis là, elle arrive puis elle voit la dévastation. C'est dans le secteur de Bon Repos à Port-au-Prince. Alors, si vous voulez prier pour Stéphica, que Dieu apporte sa consolation, qu'ils viennent bénir leur voyage, que ça puisse avoir servir à quelque chose. Une bonne nouvelle, on vous avait demandé de prier pour la famille Théberge qui avait quitté ici. C'est une sœur haïtienne qui est l'épouse d'un Québécois. Ils avaient quitté juste quelques jours avant le séisme pour aller là-bas. Et on était sans nouvelles, on était inquiets. On a eu des nouvelles de Mme Théberge. Ils sont revenus ici et on va chercher à les aider, les accompagner dans tout cela parce qu'ils doivent maintenant se reloger. Leur maison avait été mise en vente avant de partir, mais évidemment, ils s'en allaient dans un autre Haïti que celui d'aujourd'hui. Alors, ils sont revenus ici. Bonne nouvelle, ils sont en vie, sains et saufs, M. et Mme Théberge. Prions maintenant pour que le Seigneur les conduise, qu'il les accompagne et que l'Église puisse les accompagner. Ça va dans le sens de ce qu'on a mentionné tout à l'heure avec des familles qui ont besoin qu'on les aide à se meubler. Une de ces familles-là, c'est la famille Raphaël. Il s'agit de la nièce de Mme Sylvestre. D'accord? Si vous connaissez Charlot et l'Audrey Sylvestre, la nièce de Mme Sylvestre, vous allez la reconnaître immédiatement quand vous allez la voir. C'est une copie conforme de sa tante. Mais ils s'en viennent ici, d'Haïti. Donc, M. Sylvestre leur a trouvé un logement, mais évidemment, on part à zéro, là. Il faut meubler tout ça. Et l'époux, M. Raphaël, est resté pour l'instant en Haïti pour aider les gens là-bas. Et sa famille est ici, c'est-à-dire son épouse avec leurs quatre enfants. On vous les présentera en temps et lieu. Mais si vous voulez prier pour eux et voir si, comment est-ce qu'on peut les accompagner, comment on peut les aider. Donc, c'est une des familles qu'on va chercher à aider à travers les prochaines semaines. On va aller ensemble dans un mot de prière pour se recueillir devant Dieu et disposer nos cœurs à entendre sa parole. Père éternel, cette semaine, j'entendais à Radio-Canada un médecin français, un chirurgien. Son témoignage était bouleversant. C'est un spécialiste de greffe qui était là pour greffer des mains et des doigts, des membres brisés. Mais étant donné l'état de dévastation, il témoignait qu'il ne faisait que des amputations. Seigneur, ce qui m'a touché, ce qui m'a bouleversé, c'est d'entendre ce médecin ému partager le témoignage et la noblesse de ses enfants, de ces gens dans l'hôpital, et ces dames qui viennent chanter des louanges la nuit pour réconforter les enfants et dire des prières pendant toute la nuit. J'ai été touché, Seigneur, de voir tes enfants là-bas qui se démarquent pour ton nom, Seigneur, qui trouvent espoir là où il y a dévastation, parce qu'ils espèrent en toi, Seigneur. Leur cœur n'est pas dévasté, Seigneur, parce que l'espoir demeure d'un jour nouveau, d'un jour de paix dans ta présence, d'un jour éternel, Seigneur, de repos auprès de toi. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les. Apaise leur cœur, Seigneur. Qu'ils ne détournent pas le visage de toi, mais que par ta puissance unique, Seigneur, une paix qui surpasse toute intelligence vienne consoler leur cœur, ô Dieu. On te prie, Seigneur, d'apporter cette même paix à toutes les familles qui souffrent ici de ne pas pouvoir aider, de ne pas pouvoir intervenir, d'être sans nouvelles encore. Viens les consoler, Seigneur, et leur donner ta paix. Seigneur, nous sommes assemblés ce matin pour chanter tes louanges, et pour découvrir un peu plus qui tu es. Seigneur Jésus, nous voulons entendre tes paroles ce matin, et que ces paroles pénètrent en nos cœurs, afin que nous soyons disciples de Jésus-Christ, que nous marchions à ta suite, Seigneur. Apprends-nous à penser autrement. Apprends-nous à vivre autrement, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Jésus. Je te prie, Père, de faire taire les troubles de nos cœurs. Tous ceux qui arrivent ici, le cœur lourd et chargé, fais taire, Seigneur, tous les tracas, toutes les déceptions, tous les soucis, toutes les inquiétudes, et viens remplir leur cœur de ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est bonne. On y trouve la vie. On y trouve le repos, on y trouve un guide, une voix, Seigneur, dans un moment de trouble et de désespoir. Père, je te prie d'être avec ma bouche, Seigneur, que je puisse honorer ta parole ce matin et que ma vie honore ta parole aussi, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors ce matin, on termine l'étude d'un passage qu'on a commencé la semaine dernière. Et je dois le mentionner pour deux raisons. Vous allez voir que je vais m'écarter un peu plus du texte que je le fais d'habitude. En général, dans cette assemblée, on prêche la parole de Dieu par exposition, c'est-à-dire qu'on avance dans un passage et on tente d'exposer ce que Dieu est en train de dire dans ce passage-là. Ce matin, vous allez voir, je vais m'éloigner un peu du texte. C'est très intentionnel, c'est volontairement que je le fais. Je veux qu'on ait voir ensemble comment l'Église a compris ce que Jésus dit ici. Alors, je vais citer un peu plus qu'à l'habitude d'autres passages pour voir comment l'Église a intégré les paroles de Jésus, comment elle les a appliquées dans son quotidien. C'est important pour moi pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est comme ça qu'on doit vivre. Mais deuxièmement, parce que lorsque ça vient de Jésus, il y a comme quelque chose d'irréel. Non? C'est Jésus. Oui, mais Jésus, c'était un célibataire qui était ici pour 33 ans, qui partait pour le ciel. C'était le Fils de Dieu. C'était un homme, mais on s'entend-tu pour dire que c'était Jésus? Et des fois, ça crée une distance dans nos cœurs. On prend une distance par rapport à ce que Jésus dit. Ça, c'est l'idéal. On essaie d'aller vers ça. En allant vers d'autres passages du Nouveau Testament, je veux que nous voyons ensemble comment l'Église l'a compris. Et nous allons voir ensemble que des hommes comme vous et moi ont vécu ce que Jésus a dit ici. Par sa grâce. Grâce à son esprit qui les habitait, d'accord? Alors, ces préceptes-là, ce n'est pas que de la théorie pour Jésus, c'est de la théorie et de la pratique pour les disciples de Jésus-Christ. Et on va tenter de voir ça ensemble ce matin. Jésus nous donne un guide pour notre attitude envers les différentes autorités qu'il y a dans nos vies. Voici comment j'interprète ce passage-là. Jésus nous donne un guide pour notre attitude envers les différentes autorités qu'il y a dans nos vies. Quelle attitude un chrétien doit-il avoir envers les diverses autorités qu'il y a au-dessus de lui? Comment devons-nous nous comporter face au gouvernement, notre employeur, nos parents, le policier qui me donne une contravention, les lois sur l'impôt, les taxes, etc. De ce que Jésus dit ici, nous tirons un principe, un guide, un chemin à suivre pour tous ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ chrétiens. Ce passage est très important parce que Jésus donne la direction à ses disciples. Et les apôtres du Nouveau Testament, dans la suite, vont développer ça. On va voir comment est-ce qu'ils l'appliquent. Jésus ne conteste pas l'autorité de César. En disant, « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu », remarquez tout de suite que Jésus ne conteste pas l'autorité de César et son droit à percevoir des impôts. Maintenant, nous vivons en 2010. Nous avons vu déjà comment l'Église, à travers les siècles, a appris à respecter l'État généralement. Alors, ces choses-là, ça semble presque naturel pour nous. Ça semble normal, mais essayez de vous remettre dans le contexte, dans l'époque, dans les pieds des Juifs, dans les sandales des Juifs qui sont là à l'époque, et même dans celles de Jésus. Vous êtes en Israël, vous avez le Messie des Juifs, le Sauveur des Juifs, le libérateur annoncé par les prophètes. C'est le libérateur des Juifs. Et il n'encourage aucune rébellion contre César, qui est un païen et un envahisseur en Israël. D'accord? C'est ça la réalité. Là. Il est le libérateur tant attendu. Israël est sous domination d'un peuple impie. Et Jésus, qui a plein pouvoir sur les éléments de la nature, sur la vie et la mort, sur la maladie, n'encourage aucune rébellion contre ce gouvernement. Si Jésus est le Messie des Juifs, ne devrait-il pas annoncer une forme quelconque de libération de César? C'est le libérateur. Pourquoi est-ce que Jésus agit et parle ainsi? Je vois deux raisons dans le passage. Deux raisons qui nous aident à comprendre ce que Jésus fait avec cette situation-là et pourquoi Jésus n'encourage pas ses disciples à se libérer de César. Pourquoi est-ce que Jésus ne prend pas la tête d'une armée? Pourquoi est-ce que Jésus les encourage pas à se détacher de cette autorité-là? Je vois deux raisons, c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Deux raisons pour lesquelles Jésus ne conteste pas l'autorité de César, bien qu'il soit le sauveur des Juifs. Et cela implique beaucoup de choses pour tous les disciples de Jésus-Christ. Première raison, Jésus est convaincu que l'autorité des gouvernements vient de Dieu. Et si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, vous voyez où est-ce que je m'en vais ailleurs dans le Nouveau Testament. Jésus est convaincu que l'autorité des gouvernements vient de Dieu. On va se transporter dans un autre passage, je vais vous le lire, dans l'Évangile selon Jean. Quelques jours plus tard, d'accord? Alors, on est dans Matthieu, mais Jean nous parle aussi de plusieurs événements similaires. On a quatre évangiles qui nous relatent des moments précis de la vie de Jésus. On s'en va dans l'évangile de Jean, et dans le temps, c'est comme si on se transporte quelques jours plus tard par rapport à notre passage d'ici ce matin, lorsque Jésus va se retrouver devant le gouverneur romain Ponce Pilate. Je m'en vais dans Jean 19. Jésus se retrouve devant Pilate, qui est le gouverneur romain. Il représente toute l'autorité de César en Israël. Il a droit de vie et de mort sur les gens qui sont là, d'accord? Voici ce qui se passe dans Jean 19, verset 8. Pilate entre dans le prétoire et voici ce qu'il dit à Jésus. Jean 19, 8. « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Je comprends, on ne parle pas d'impôt ici. Mais on parle de beaucoup plus que l'impôt. On ne parle pas de la taxe à payer à César. On parle de beaucoup plus que cela. On parle de la vie et de la mort. Mais Jésus se tient devant Pilate et lui dit, « Le pouvoir que tu as actuellement sur ma vie te vient de Dieu. » Tu ne l'as pas vraiment dans tes mains, c'est parce que Dieu a décidé que tu allais avoir ce pouvoir-là sur ma vie. Jésus sait que son Père céleste est entièrement souverain sur la situation et au contrôle de toutes choses. Il sait que l'autorité qui est entre les mains de Pilate lui vient de Dieu. On parle de vie et de mort ici. Il sait que l'autorité qui est entre les mains des gouvernements est donnée par Dieu. Implicitement, on va aller jusque-là. Ce n'est pas juste dans cette situation présente. Les chrétiens vont l'interpréter pour tous les gouvernements. Ainsi qu'il s'agisse de César ou de Pilate, ces autorités possèdent un certain pouvoir parce que Dieu leur accorde ce pouvoir. César ou Pilate, consciemment ou non, est sous l'autorité et le pouvoir de Dieu. C'est extrêmement important pour comprendre notre relation avec les autorités. Et remarquez bien que ceci ne place pas César ou Pilate ou quelque gouvernement que ce soit égal à Dieu. Dans Matthieu 22, il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ceci n'implique pas que César est l'égal de Dieu. Au contraire, dans l'esprit de Jésus, c'est très clair que les autorités, les gouvernements sont subordonnés à Dieu. Ils sont sous l'autorité de Dieu. Et toute autorité qu'ils ont leur vient de Dieu. Jésus dit à Pilate, « Ce pouvoir que tu crois avoir de plein droit t'a été donné d'en haut. Tu n'aurais aucun pouvoir si Dieu n'en avait pas décidé ainsi. » Et depuis des siècles, les disciples de Jésus-Christ appliquent ces principes dans leur rapport avec les autorités. Depuis des siècles, les disciples de Jésus-Christ appliquent ce principe, cette vision du monde, lorsqu'ils se retrouvent devant une autorité civile quelconque. Il voit derrière cette autorité Dieu qui a délégué un pouvoir. Les apôtres qui devaient enseigner l'Église, comment suivre, ont développé cette idée-là par la suite. Tournez avec moi dans Romains 13, s'il vous plaît. Romains chapitre 13. Pour ceux qui ne sont pas familiers, on est toujours dans le Nouveau Testament. Allez, 5 livres plus loin, environ. Romains chapitre 13. Verset 1, Romains 13, 1. Je vais lire plusieurs passages ce matin. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Déjà, on entend Jésus parler, non? Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payiez l'impôt. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. J'ai une question pour vous. Quand Paul écrit ça dans Romains 1, est-ce que nous sommes dans une terre chrétienne où les magistrats, les autorités sont des hommes de Dieu, intègres et droits? C'est la lettre aux Romains, aux chrétiens qui habitent à Rome. On est sous l'Empire romain lorsque Paul écrit ça. Il vit sous le règne de l'Empire romain. On ne parle pas d'une démocratie pure avec quantité de droits comme nous en avons dans ce pays. Nous parlons d'un empire qui domine. Les droits et libertés des chrétiens étaient bien plus limités que les nôtres aujourd'hui. Et il faut même réaliser, si vous n'en êtes pas conscient, la majorité des chrétiens qui venaient des classes souvent de serviteurs, d'esclaves, la majorité des chrétiens n'étaient même pas citoyens romains. Alors, leurs droits étaient en deçà des droits d'un citoyen romain. Et pourtant, les apôtres disent aux chrétiens, ces autorités qui sont au-dessus de vous, aussi croches peuvent-elles être, c'est Dieu qui les a instituées. D'accord, on n'est pas en Israël, on n'est pas dans un monde chrétien, avec des beaux principes, puis où tu vas toujours pouvoir faire valoir ton droit. On est dans l'Empire romain ici. Tournez avec moi dans 1 Pierre 2. Les deux passages, je dirais, les plus importants du Nouveau Testament, dans la suite du Nouveau Testament, pour parler de notre relation avec les autorités. 1 Pierre, chapitre 2. Verset 13, 1 Pierre 2, 13. Je vais lire encore une large portion. 1 Pierre 2, 13. Soyez soumis à cause du Seigneur. Encore une fois. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Ainsi, depuis des siècles, les disciples de Jésus-Christ cherchent à honorer les autorités que Dieu a placées au-dessus d'eux. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on le voit dans les Écritures même, nous avons à choisir entre obéir à Dieu ou obéir aux autorités. Parce qu'il arrive que les autorités s'opposent à la volonté de Dieu, et on voit des exemples dans le livre des Actes, mais je veux dire simplement avec Jésus. N'est-ce pas, les autorités religieuses auraient bien voulu le faire taire. Mais Jésus n'allait pas se taire, il allait déclarer ce qu'il est, il allait se révéler. Si Jésus avait courbé le genou devant eux et s'était tu, l'histoire aurait été tout autre. Alors il y a des moments où on va désobéir au gouvernement par motif de conscience pour obéir à Dieu. Cela arrive, mais seulement lorsque les gouvernements demandent de pécher, alors nous n'obéissons pas. Alors, je vous donne un exemple très, très réel, peut-être un peu extrême, mais très réel. Certains chrétiens ont abrité et ont caché des Juifs sous le régime nazi. Ils faisaient face à un gouvernement qui était monstrueux et ils ont cherché à protéger la veuve et l'orphelin. Il y avait là une désobéissance. j'oserais dire, béni de Dieu. Ils ont désobéi aux autorités qui étaient au-dessus d'eux. Donc, il arrive que nous soyons obligés de choisir entre l'obéissance à Dieu ou au gouvernement. Et le choix n'est pas difficile dans ces cas-là, parce qu'on cherche à honorer Dieu premièrement. Mais ce n'est pas de ça dont je vous parle ce matin, d'accord? Je vous parle de toutes les autres situations. Je vous parle de notre attitude en général. Je vous parle de contestation. De toutes ces fois où il y a des décisions, il y a des situations qui arrivent qui ne vont pas selon mon jugement à moi, mais l'autorité supérieure en a décidé autrement. Jésus ne conteste pas l'autorité de César. Cette autorité est déléguée par Dieu. Est-ce que ce gouvernement qui est au-dessus de lui est juste? Pilate, c'est un politicien qui a discerné dans le cœur de Jésus, dans son attitude, qu'il était face à un juste. Il va donc poser un jugement injuste. Est-ce que Jésus était devant un gouvernement juste? Est-ce que Rome est un modèle d'intégrité, de gestion gouvernementale avec une probité hors de toute critique? Aucunement! Notre difficulté à honorer les autorités au-dessus de nous nous ferait rougir si on était à côté des chrétiens de cette époque-là, qui trouvaient la capacité en Christ d'honorer des autorités et un système qui était tellement moins juste que celui dans lequel on vit. Il y avait autant de corruption à Rome et autant d'hommerie à Rome qu'il y en a partout où il y a des hommes. Pourtant, Jésus ne conteste pas l'autorité de César. Alors, je vous pose une question pratique. Combien de temps, combien d'énergie consacres-tu à contester dans ton cœur les différentes autorités que Dieu a placées sur ta vie? Combien de temps passes-tu à contester leurs décisions, leurs directions, leur autorité? Et je ne parle pas seulement de contestation verbale, d'accord? C'est sûr, il y a des gens qui sont des revendicateurs et qui vont monter aux barricades et qui vont faire valoir leurs droits. C'est quand même une minorité, reconnaissons-le. La majorité d'entre nous, les contestations que nous vivons se passent à l'intérieur du cœur. Ça se passe en nous. Combien de temps passes-tu à te préoccuper de situations injustes que tu as à subir de la part des différentes autorités que Dieu a placées sur ta vie? Il y a une énorme libération à reconnaître que Dieu est souverain et qu'il permet des situations qui peuvent m'apparaître injustes, qui ne sont pourtant pas à l'extérieur du pouvoir de Dieu. On vient de lire Pierre qui dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vous comprenez pourquoi, en général, les gens ont l'impression que le christianisme, c'est une religion de masochistes. Parce que nous trouvons une gloire à accepter des injustices pour le nom de Christ, parce que nous croyons que nous allons gagner des cœurs en ayant une attitude irréprochable lorsque nous subissons l'injustice, parce que des hommes comme Joseph dans l'Ancien Testament sont des modèles pour nous, parce que Christ a subi les plus grandes injustices et qu'il est notre modèle, parce que nous voulons le suivre. Apprendre à reconnaître la souveraineté de Dieu, apprendre à se soumettre à des décisions qui nous semblent injuste ou qui ne semble pas être la bonne décision, c'est une grâce. Apprendre à s'en remettre à Dieu dans la prière plutôt que de se laisser tourmenter toute la journée par nos contestations, nos revendications, je vous assure, c'est une grâce extraordinaire. Et c'est là que Christ veut nous amener. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons rien dire, d'accord? pas ça que je suis en train de dire. C'est extraordinaire de vivre dans une démocratie où on a certains droits quand même. Et on peut parler et on peut ouvrir la bouche. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit jamais ouvrir la bouche, jamais faire valoir notre perspective, mais il y a une place pour ça, il y a un temps pour ça, il y a une attitude pour faire valoir notre point de vue, nos demandes, voire nos droits. Mais tout cela en sachant que nous devons honorer les autorités et que Dieu est entièrement souverain. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui commandait aux éléments de la nature, ne contesta pas l'autorité de César. Songez à cela un instant. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui commandait aux éléments de la nature, ne contesta pas l'autorité de César parce que cette autorité venait ultimement de Dieu. Le Fils de Dieu ne contesta pas l'autorité de César dans un jugement injuste. Mets ça dans ta pipe. Quand tu vas avoir le goût d'aller contester. Alors, la première raison, c'est que Jésus était convaincu que les autorités et les gouvernements étaient subordonnés à Dieu, que Dieu était totalement souverain, même dans des situations qui étaient souvent injustes. Dieu continue à régner. Dieu continue à dominer toutes choses. Et c'est Dieu qui a placé cet ordre-là. Même si elle est totalement imparfaite, gérée par des hommes qui se laissent aller rapidement à l'hommerie, Jésus-Christ avait la conviction que Dieu était derrière ses autorités. C'est la première raison pour laquelle Jésus n'a pas contesté l'autorité de César. Deuxième raison, qui à mon avis est la plus importante, et moi je pense que toute notre joie, tout notre encouragement repose dans cette deuxième raison-là. C'est celle-là qui nous motive à accepter ces choses. Non seulement le fait qu'on sait que Dieu est souverain, mais Jésus sait que son royaume n'est pas de ce monde. Jésus-Christ a cette conviction intime que son royaume n'est pas de ce monde. Écoutez encore une fois dans Jean, je retourne dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 18. Et écoutez bien ce que Jésus va dire au gouverneur romain Ponce Pilate, encore une fois, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 18, verset 35. Jésus est devant Pilate et lui dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré à des Juifs, aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi, puisque tu es un royaume. » Et Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Un drôle de roi, n'est-ce pas? Un roi qui a les mains liées devant un homme. Mais son royaume n'est pas d'ici-bas. Son royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Jésus-Christ ne vivait pas pour se bâtir un royaume ici-bas, mais il vivait pour le royaume des cieux. Dans l'Évangile selon Matthieu, dans les Évangiles, Jésus parle constamment du royaume des cieux, du royaume de Dieu, non d'un royaume sur la terre comme nous la connaissons aujourd'hui. Avec la venue de Jésus-Christ, bien des choses ont changé pour le peuple de Dieu, pour ceux qui aiment Dieu. Et regardez la différence frappante qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait reçu un territoire. Dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu n'a pas de territoire. Notre mandat, c'est de témoigner jusqu'aux extrémités de la terre, sans jamais dominer. Témoigner. Dans l'Ancien Testament, le mandat, c'est rester ici. C'est vrai? Dans cette terre que je vous ai donnée. Dans le Nouveau Testament, c'est ne restez pas ici, allez. Ça veut dire qu'on est des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait un lieu précis, le temple, pour rencontrer Dieu. Dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu n'a pas de lieu. Jésus est avec nous partout, son esprit habite en nous. Nous sommes son temple. Dans l'Ancien Testament, une manifestation de la bénédiction de Dieu était la richesse des récoltes en Israël. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous invite à investir nos biens dans le royaume de Dieu. Il nous dit, vos richesses servent à vous acquérir des bénédictions éternelles. Soyez généreux, soyez bons. Voyez ça comme un outil simplement, pas pour vous installer. Israël devait s'installer confortablement dans le territoire que Dieu lui avait donné, rester là, alors que nous, chrétiens, Dieu nous dit « allez ». Mes amis, Jésus-Christ nous demande de voyager léger. Quand Jésus reviendra, on s'installera. Parce qu'il est parti nous préparer une place. Quand Jésus reviendra, on s'installera pour de bon. Mais jusqu'à son retour, Dieu nous demande à nous de voyager léger, de ne pas s'empêtrer à vouloir défendre tous nos droits, s'installer un royaume sur la terre, se bâtir un petit château ici. Voyageons léger pour pouvoir suivre Christ qui, assez légèrement, dit « Mais rendez donc à César ce qui est à César. Sa photo est-tu? C'est à lui. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Parce que Jésus voyageait léger. Et tous ceux qui vont suivre Jésus-Christ sont appelés à voyager léger. Nous sommes ici dans une situation temporaire. Nous apprenons à calculer, à penser, à réagir en fonction de l'éternité. C'est ça, apprendre à être un disciple de Jésus-Christ. Apprendre à suivre Jésus, c'est apprendre à réfléchir, à calculer, à évaluer chacune de nos décisions à la lumière de l'éternité. Pas des 25 prochaines années. Elles n'auront aucun poids dans l'éternité. Lorsqu'un chrétien est préoccupé par la défense de ses droits, que ce soit au travail, avec sa municipalité, avec les policiers, le gouvernement, lorsqu'un chrétien est préoccupé par la poursuite de ses droits, il doit se demander quand s'arrêter. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit jamais rien dire. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand tu mets les choses dans la balance de l'éternité, un chrétien doit se demander quand arrêter. Parce que nous ne sommes qu'en voyage ici. Si mon siège n'est pas tellement confortable dans l'autobus, ce n'est pas grave, j'attends le terminus. Lorsqu'un chrétien est préoccupé par la défense de ses droits, que ce soit au travail, que ce soit avec ton voisin, que ce soit avec tes parents, que ce soit avec toutes les formes d'autorité ou de relations qu'il y a autour de toi, un chrétien doit se demander quand est-ce qu'il doit arrêter. Parce que nous sommes en voyage et tout ceci a une dimension tellement temporaire, sans aucun poids dans l'éternité. Cette contestation que tu as dans ton cœur, qui te préoccupe, qui gruge tes énergies, qui mange ton temps, soupèse-la devant Christ, devant le tribunal de Christ, et dis-moi combien elle vaut maintenant. Quand tu vas te trouver devant Christ, quel poids ça va avoir? Est-ce que ça va être si important? Est-ce que ça vaut la peine de te dévorer intérieurement pour quelque chose qui a si peu de poids dans l'éternité? Jésus-Christ poursuivait le royaume des cieux. Il n'avait pas de temps pour contester, revendiquer un royaume ici-bas. L'énergie que tu mets à défendre tes droits, est-ce que Dieu voudrait que tu le mettes à l'avancement de son royaume? Le temps que tu passes à revendiquer, à te préoccuper, à te tracasser pour les choses de ce monde, pour tes droits, ne devrait-il pas être investi ailleurs dans les choses éternelles? À la lumière de ce que Jésus nous a donné comme modèle? Toute cette énergie, ces préoccupations qui t'accaparent parce que tu as souffert une injustice ici-bas, parce que les autorités qu'il y a dans ta vie sont injustes, toute cette énergie-là ne devrait-elle pas être investie ailleurs à annoncer l'Évangile, à faire des disciples pour Christ, à faire du bien au nom de Jésus-Christ, à te consacrer à la prière? Est-ce que ce n'est pas ça que Jésus attend de toi? Mes amis, Dieu est entièrement souverain sur les autorités qu'il place dans nos vies. Et lorsque celles-ci prennent des mauvaises décisions, il est encore souverain. On est en voyage ici-bas. Nous devons voyager léger. ne pas nous tracasser indéfiniment avec des choses qui n'ont aucun poids dans l'éternité. Ne pas passer notre temps à nous préoccuper de nos droits, mais plutôt nous préoccuper du royaume des cieux. Rends à ton boss ce que tu lui dois et rends à Dieu ce que tu lui dois. C'est à lui la compagnie, c'est lui qui a l'autorité. Rends à ton boss ce que tu lui dois et rends à Dieu ce que tu lui dois. Rends au policier qui t'a surpris en excès de vitesse ce que tu lui dois, sans broncher, mais avec respect, et rends à Dieu ce que tu lui dois. Rends à tes parents ce que tu leur dois avec une attitude qui les honore, et rends à Dieu ce que tu lui dois. Rends à ton professeur le respect que tu lui dois, et rends à Dieu ce que tu lui dois. Jésus-Christ nous a donné une merveilleuse mission, faire des disciples de Jésus, afin de les amener avec nous dans l'éternité. Aux noces de l'agneau, on va s'installer pour de bon. Là, on va s'installer pour de bon. Là, ça va être important d'être confortable. En attendant, si ton siège n'est pas confortable, c'est-tu vraiment grave? On t'a piqué ta place. C'est-tu vraiment grave? On est en voyage ici-bas. Faisons comme Jésus, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, sans broncher, dans la paix, en acceptant de souffrir quelques injustices. Notre plus grande motivation pour accepter de souffrir des injustices, Pierre nous l'a donné. Vous savez, chaque fois qu'un pécheur comme vous et moi subit une injustice, en définitive, c'est un pécheur. Est-ce que vraiment il y a une injustice? Ah, peut-être là, mais je suis un pécheur. Je mérite à quelque part un châtiment de la part de Dieu. La seule véritable injustice qu'il y a eu dans toute l'histoire de l'humanité, c'est lorsque le Fils de Dieu, un juste, a été crucifié pour que des injustes comme vous et moi puisse entrer dans le royaume des cieux. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ta parole nous dépasse. Ta parole nous dépasse parce qu'elle est parfaite. Et lorsque nous entendons, Seigneur, tes préceptes, nos bouches restent fermées. Ta sagesse était divine, Seigneur, et nous restons en silence. Mais voilà, Seigneur, nous sommes des injustes et revendiquons constamment nos droits. C'est si difficile pour nous, Seigneur, de souffrir des injustices. Nous voyons, Seigneur, de mauvaises décisions se prendre. Nous voyons des comportements injustes et nous subissons, Seigneur, les conséquences régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement. Seigneur Jésus, viens nous toucher de ta grâce. Viens nous inspirer par ton œuvre à la croix, toi le juste, qui as subi la seule véritable injustice. Touche-nous de ta grâce, afin que nous puissions te suivre, Seigneur. Et qu'en toute chose, nous rendions, Seigneur, aux autorités qui sont autour de nous, ce que nous leur devons, dans la crainte de Dieu, dans la joie de te plaire et d'avoir un cœur honorable devant toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on veut souligner l'arrivée de petits trésors dans notre...